Comme vous venez de l'entendre, c'est une programmation de feu qu'on vous offre sur Boulevard maintenant qu'on est 100% parlé la semaine. C'est le retour de Gravel qui va suivre notre émission comme à l'habitude. L'excellent Denis Gravel avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Marceau de soir avec Éric Duhaime ce soir à 18h. Et on est de retour demain matin dans Marceau le matin. Moi, Yannick et Max Larouche. Max Larouche qui anime le Point de Max de 10h à midi. Je le rappelle à la météo, c'est une belle journée, 15 degrés. 11 degrés demain, généralement ensoleillé. Et à long terme pour le week-end, c'est du 14, 17 et 16 degrés ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche. On en a parlé avant la pause. Semble-t-il que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a l'épiderme sensible selon la chroniqueuse de Québécois, Yasmine Abdel-Fadel. Lambert Drainville, t'en penses quoi? Est-ce que PSPP est allergique au débat? Ou comme PSPP le dit, c'est les chroniqueurs qui se permettent d'écrire de quoi, puis dès qu'on les critique, ils réécrivent encore pour nous planter?
C'est un peu les deux.
C'est drôle parce que j'ai lu justement les textes que tu m'as envoyés, puis je me suis dit, c'est-tu quoi, les deux ont raison?
Ah, les deux ont raison, puis tu sais, ben franchement, pour avoir été aux communications au gouvernement, là, moi, je trouve ça correct qu'ils prennent le temps de répondre. Surtout, il le fait quand même là, de façon, tu sais, réfléchie, là, il écrit des longs textes, là. C'est pas tout le monde qui va les lire, mais... il prend la peine de répondre. Puis souvent, quand t'es en politique, justement, les médias, c'est vrai les deux côtés. Là, la seule chose, c'est qu'ils ont souvent le dernier mot. Fait que c'est souvent ça que je vais dire. Là, puis pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben la vérité, c'est qu'il va devoir... il va devoir apprendre à peut-être choisir ses moments parce que plus que ça va avancer, plus qu'il va aspirer à être le prochain premier ministre si les sondages restent comme ils sont, il pourra pas, là, puis plus qu'il va être la cible, évidemment, d'articles, d'attaques autant des autres partis que des médias en question qui vont écrire des textes sur lui, des textes d'opinion. Et il va devoir apprendre à choisir ses batailles. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose dont ils sont conscients. Au sein du PQ. Là. Ils le savent très bien. Moi, je trouve que, considérant la grandeur de leur toute petite équipe, ils ont fait un super job au niveau de la communication pour le positionner comme un gars qui est justement posé, réfléchi, qui est même capable d'avoir du fun des fois. Là. On l'a vu jouer au football, on l'a vu faire un paquet d'affaires.
Ben oui.
Ben c'est ça. Mais là, Yasmine a dit que depuis quelques mois, on remarque qu'ils ont la peau plus fine, que ce n'est pas rare qu'un chroniqueur, un observateur ose analyser le discours du PQ, reçoive en retour une réplique hautaine et condescendante. Pourquoi donc toute cette paranoïa, ce dogme, ce mépris?
Lambert, on va se le dire. Et là, je vais donner l'exemple de la campagne électorale municipale ici à Québec. Les médias, les chroniqueurs, les journalistes, ça demeure des êtres humains. Puis si tu viens constamment les piquer, tu gagneras pas à ce jeu-là parce que les chroniqueurs dans les médias écrits vont pouvoir écrire la chronique qu'ils veulent. L'animateur de radio, le chroniqueur comme toi dans plusieurs médias sur les médias sociaux va pouvoir donner son opinion. Tu gagneras jamais ça. Et Sam Ahmad a perdu contre Radio-Canada et Québécois à force de conférences de presse, de les critiquer ouvertement. Ils ont dit « Ah ouais, mon Sam, check-nous bien à lui. » Il est perdant de ça.
Absolument. C'est un méchant bon exemple. Puis c'est pour ça que je dis qu'il gagnera pas. Fait que c'est pour ça que plus ça va avancer, plus il va être la cible d'attaque, plus il va devoir apprendre à choisir ses moments. Maintenant, j'ai commencé avec ça. Je trouve ça correct aussi que des fois, ils prennent le temps de répondre, qu'ils prennent le temps de... Mais il ne faut pas qu'ils perdent son côté, justement, posé, son côté réfléchi. Il est à son meilleur, justement, quand il y a ces traits de caractéristiques-là. Et quiconque l'a côtoyé à l'interne sait très bien que c'est pas pour rien que la petite étiquette caquise de dire qu'il est un peu soupe au lait lui a collé à la peau. C'est que c'est en partie vrai.
Oui.
C'est pas nécessairement négatif. Ben, c'est un peu négatif, mais au fond, c'est un gars passionné, c'est un gars qui défend ses idéaux, puis généralement, il le fait de la bonne façon. Je pense qu'il va juste devoir apprendre à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée une fois de temps en temps.
C'est une intensité, puis honnêtement, là, je le dis comme ça, puis avec toute humilité, là, j'ai cette intensité-là, moi. T'sais, je le sais que j'en dérange du monde des fois parce que, hey non, c'est ça que je veux, puis on s'en va là, puis on le fait, puis c'est pas toujours dit de la bonne façon. mais c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui a à cœur le projet référendaire, c'est un gars qui a à cœur la souveraineté. Et ça, on ne peut pas lui reprocher cette intensité-là. T'sais, ça vibre dans ses veines. Là.
Exact. Puis, comme on va finir ça avec comment on a commencé, je pense que de dire que Paul Saint-Pierre Plamondon a l'épiderme sensible du côté de Yasmine Abdel-Fadel, ça aidera pas au fait qu'il va arrêter de lui répondre. Et bien honnêtement, tu sais, dans sa réponse sur Twitter, il soulève quand même quelques bons points. Là. Yasmine, elle est très, très libérale dans sa moelle. C'est bien franchement, ouais. c'est assez transparent quand tu la regardes sur ses différentes tribunes. Et c'est vrai que des fois, elle mélange un paquet d'affaires, est allergique à la question identitaire, elle parle d'islam radical d'un bord, la laïcité, l'égalité homme-femme, puis elle met tout ça dans le même panier. Laissons les gens débattre, c'est ce que je dis. Laissons
exactement.
Les gens débattre. Au PSPP, c'est peut-être de choisir ses batailles. Voilà. Ouais.
Parlant de Yasmine et de PSPP qui débattent sur la place publique, malheureusement, il y en a deux qui se parlent plus. C'est les médecins et le gouvernement de la CAQ pour une xième fois. Il se passe quoi avec nos médecins, Lambert?
Ben moi, j'en ai parlé souvent. Tu le sais, là, j'ai parlé des études du HEC là, pratiquement à chaque semaine depuis qu'on est ensemble. Et juste faire un petit édito là-dessus, là, Jeff, là, je mets souvent les clips tu sais, de toi puis moi là, qui parlent des études du HEC. Puis tu sais, moi, je le fais un petit peu parce que ces études-là nous éloignent des deux spins, autant celui des médecins que celui du gouvernement. Puis c'est les seules études qui nous offrent ce qui se rapproche le plus d'un portrait clair de la rémunération des médecins au fil du temps, puis de leur charge de travail, puis du nombre d'actes médicaux qu'ils font auprès de la population. Puis, hey, le nombre de médecins là, qui m'écrivent, là, ça les met là, hors d'eux. Là. Ils sont viscéraux, ils sont méchants.
Mais pourtant, c'est des chiffres et des statistiques qui, comment je pourrais bien dire, qui sont véridiques, là.
Donc,
t'as bien beau te fâcher, t'as bien beau. C'est comme hier quand j'ai dit à Anne Guérette, hey, vous me dites qu'il n'y a pas un entrepreneur dans la ville de Québec qui veut du tramway. Il y a un sondage, ils sont 70% de vouloir. Puis elle était fâchée, mais
chaque étude peut avoir des biais, puis il y a une méthodologie, puis il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours un petit peu de biais, même dans les médias. Ça reste que j'en ai pas d'autres sur laquelle m'appuyer. Fait que si quelqu'un en a une autre, ben envoyez-moi là, je vais l'entendre avec grand plaisir. Mais présentement, c'est tout ce qu'on a parce que le gouvernement a changé les règles par rapport à la collecte de données avec des lois passées par Christian Dubé dans les dernières années qui permettent finalement de faire des études comme ça. Et donc, la force de lobby des médecins est gigantesque.
Ben oui, avoir Lucien Bouchard qui est derrière eux, là, c'est clair que c'est gigantesque. Là.
Des millions, là, écoute, ils payent 5% de leurs honoraires à leur syndicat. Là.
Aïe,
5% de gens qui font 3-4 000 par année. T'sais, ils ont des salaires, ils fonctionnent sur des budgets de dizaines de millions annuellement. Et dans le cas des négociations, ce qu'on en comprend, c'est que pour l'instant, ils n'en mettent pas de l'eau dans leur vie. On peut débattre de chacun des deux côtés, qui a raison, qui n'a pas raison, mais le gouvernement a fait reculer la partie qui va toucher les indicateurs de performance, qui va toucher le salaire des médecins de 25 à 15 a reculé par rapport aux médecins qui sont en début de carrière ou en fin de carrière, ont mis de l'eau dans leur vin. Ils me disent qu'ils sont prêts à en mettre plus. Et du côté des médecins, dès que le projet de loi 106 est, ne serait-ce que dans la discussion, ils ne veulent pas discuter du projet de loi, ils ne veulent pas discuter de ce qu'il contient, ils ne veulent pas discuter du principe. Et là, c'est ce qu'ils ont dit aux médiateurs. On dit, nous, si ça s'est impliqué, on ne veut pas négocier. Le médiateur, lui, sa job, c'était de rapprocher les deux parties. Il voit bien qu'il n'y a pas de rapprochement à faire. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Ils veulent l'arbitre, ils veulent le gars qui va venir puis va dire, on tranche la poire en deux puis vous allez obtenir tel pourcentage d'augmentation de salaire. Mais en Ontario, quand ça s'est fait, ça s'est traduit en 17 % sur 4 ans. Si tu fais ça au Québec, là, c'est 1 milliard et pas 1 milliard total. Là. On parle de 1 milliard par année.
Oui, c'est ça qui est de façon pérenne à trouver dans un budget. Mais c'est ça, c'est des salaires donc où on est déjà en déficit là, de 13,5 milliards de dollars. Là, donc,
pour le gouvernement, c'est inacceptable. Fait que comment ça va se finir? Ben, eux autres, ils vont revenir sur leur moyenne pression. ils vont, comme on dit, toi, tu es un gars de sport, ils vont dire, ils vont jouer l'horloge. Ils vont essayer de jouer ça jusqu'en octobre 2026. Ils signeront rien. Ils vont mettre de la pression à travers les différents moyens de pression qu'ils peuvent mettre en place. Puis le gouvernement, ben ils veulent pas en arriver là, mais l'arme atomique, leur dernière option, c'est de tout passer ça par baillon. Mais évidemment que c'est pas... ils préfèrent s'entendre avant ça puis pas en arriver là, là.
C'est clair. Hey, Lambert, parlant de 1 milliard de dollars, OK, François Legault nous parle toujours de sa moyenne au bâton en économie, mais là, on a perdu 400 millions de dollars. C'est sorti dans les médias aujourd'hui dans Airbus. Ça s'ajoute aux 270 millions de dollars dans Nordvolt, aux 220 millions de dollars dans recyclage carbone Varenne et aux 143 millions de dollars dans Lyon électrique. Colin, le gouvernement vient de nous perdre 1 milliard.
Ouais, bon, ça c'est...
fait que ça se peut qu'il y ait une moyenne au bâton, pas pire, mais il me semble que quand j'ai perdu 1 milliard, ça me fait mal, moi, en tant que contribuable qui paye des impôts et des taxes.
Ben c'est ça, tu sais, puis au-delà des dossiers spécifiques, c'est les symboles, tu sais, qui s'accumulent, puis c'était initialement le gouvernement de comptable, M. Legault, Pierre Fitzgibbon, c'était la rigueur économique, les investissements, on allait mettre le Québec sur la map des multinationales, puis aller générer de la richesse, puis les symboles s'accumulent. Puis j'entends le premier ministre quand il dit, ben là, on parle tout le temps des deux, trois mêmes dossiers, mais on investit avec Investissement Québec dans 25 000 entreprises chaque année. Je comprends, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un matin que je me lève puis que je lis dans ma revue de presse à propos d'une des 24 995 autres entreprises qui nous ont rapporté tellement puis qui vont tellement bien, tu sais. Puis là, il va te dire, ben je comprends donc, mais il va te dire, excuse-moi, je cherche mes mots.
Hey, pas trop.
On est meilleur que l'Ontario, ouais. Tu sais. Notre économie va mieux que l'Ontario. PIB par habitant, richesse générée, revenu par famille, etc. Imagine comment que ça irait encore mieux.
C'est ça l'affaire.
Si en plus les investissements qu'on faisait dans les entreprises fonctionnait, puis que la moyenne au bâton est encore plus...
Hey, ça va bien, on est sur le bord de faire les séries éliminatoires. Imagine comment ça ira bien si on a la Coupe Stanley dans les mains.
Ben, tu sais, c'est un peu ça, puis pour ce qui est d'Airbus spécifiquement, là, c'est vrai que l'industrie aéronautique, là, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant d'avoir un retour sur l'investissement. Pour l'instant, c'est vraiment les actions du gouvernement qui ont perdu la moitié de leur valeur, mais tu sais, à l'interne, on me dit, on jugera l'arbre à ses fruits dans 10-15 ans, voir si ça a été un investissement payant, certes, mais malheureusement pour eux, les élections, elles, sont dans un an.
Oui, puis on parle quand même de pertes avec tous ces projets-là là, du côté de Québec de plus d'un milliard de dollars. Puis je tiens à le rappeler aux auditeurs, ça, c'est sans les dépassements de coûts dans tous nos projets. Là, on parle seulement d'investissement dans des entreprises. On parle pas de tous les autres dossiers, de tous les sacrifices de ce monde qui a eu lieu avec des dépassements de coûts monstres. Ça, au-dessus d'un milliard perdu-là, c'est seulement dans les investissements aux entreprises.
Oui, c'est ça. Puis Pascal Paradis était en période de questions plus tôt aujourd'hui, puis il parlait d'une demande d'accès à l'information qu'il avait obtenue, qui parle justement, Mathias, des dépassements de coûts au niveau des différents projets informatiques. Parce qu'encore une fois, le premier ministre a dit hier que 80 % des projets informatiques étaient ouverts, bien, selon cette demande d'accès à l'information-là. Puis encore une fois, c'est ce que M. Paradis dit. Je sais que vous le recevez souvent en ondes.
Oui.
Vous pourrez peut-être lui demander encore plus de détails. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que, écoute, il y a 70 projets qui sont en dépassement, puis ça équivaut à des dépassements d'un demi-milliard.
Aïe, aïe, aïe.
Avec quoi? À peu près un milliard tantôt, un demi-milliard de plus. Écoute, tu sais, c'est comme rendu tellement beaucoup de chiffres qu'on s'y perd un peu. Mais encore une fois, JF, ça revient toujours, et Mathias, ça revient toujours à la même chose. Les symboles, c'est les symboles qui font mal en politique et qui créent un narratif autour d'un gouvernement.
Je l'aime vraiment, ta phrase, les symboles. Je vais la retenir, Lambert, elle est vraiment bonne. En terminant, en une minute, est-ce que Jonathan Julien va être capable de remettre les contrôleurs routiers sur la route bientôt, puis de les armer, ou on va être pris encore avec ces chauffeurs Inc.-là sur la route avec l'hiver qui approche? C'est rien de rassurant pour la population?
Non, puis tu sais, dans ce dossier-là, là, les deux paliers de gouvernement ont une part de responsabilité. Je sais que vous allez parler à un...
Oh, je suis tellement d'accord avec toi.
c'est beaucoup plus Ottawa, ben honnêtement, là, au niveau de comment les lois ne sont pas appliquées, puis l'Agence du revenu, Emploi Développement Social Canada qui font peu d'inspections, puis qui permettent un peu à des gens de faux travailleurs autonomes, des gens arrivés issus de l'immigration qui là, conduisent soudainement des 53 pieds sans neige avec aucune expérience.
Après 10 jours de formation, alors qui sait, à Charlebourg, on a un centre de formation professionnelle, puis ça prend 5 mois pour avoir ton permis.
Ouais, puis c'est grave, là, tu sais, il y a eu des morts, il y a un enfant de 6 ans avec qui est mort, là, il y a 2 semaines, je pense, il y a eu un accident hier, là, impliquant un gars qui avait conduit 57 heures d'affilée. La responsabilité du Québec, maintenant, c'est sûr que c'est de ramener les contrôleurs routiers sur la route, puis ça fait des mois et des mois que ça niaise, puis... Là, tu sais, je leur ai parlé, il y a une décision, tu sais, clairement, là, ils savent où c'est qu'ils s'en vont. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les tu sais, M. Julien, M. Lafrenière, au niveau de la sécurité publique, sont sur la même longueur d'onde, ont choisi leur solution. Je veux pas donner d'indices, mais si j'avais à mettre un petit 2$, parce qu'ils hésitent évidemment avec le teaser puis l'arme à feu, là, je mettrais un 2$ sur l'outil qui fait plus « pow » que l'outil qui fait « bum ».
Moi aussi.
Ouais, fait que je peux pas en dire plus, mais ça vient évidemment avec des implications, tu sais, d'armer des gens. Il faut qu'ils regardent au niveau du ministère des Finances, combien ça va coûter, là, si, tu sais, Conseil du Trésor, s'ils changent de catégorie d'emploi. Fait que c'est pour ça que ça niaise. Je vais finir avec ça, Jeff. Ça démontre un petit peu les impacts que peut avoir un remaniement ministériel. T'sais, les remaniements, on en parle, c'est souvent des stratégies un petit peu de relance, des stratégies de communication. Mais là, clairement, c'est un dossier sur lequel M. Bonnardel, Mme Guilbeault avaient travaillé. Et là, quand tu parles au cabinet de M. Julien, tu sais, ils te disent, ben nous, on vient d'arriver, tu sais, on vient d'être nommé, puis on est vraiment, c'est notre dossier prioritaire. Peut-être que si c'était parlé ou peut-être que si le ministre n'avait pas changé, c'est un enjeu qui serait déjà réglé.
En effet, entièrement raison. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler à chaque mercredi et vendredi sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission Dans Jase. On se reparle vendredi. Merci pour tes excellents talents de vulgarisateur. On vient de faire 4 sujets en 16 minutes, puis j'ai tout compris.
Hey, ben, c'est une bonne affaire. J'espère que les auditeurs aussi ont tout compris. C'est ça qui compte.
Yes! Hey, salut, Lambert, mon chum. Toujours un plaisir.
Hey, ciao, les boys.
Salut! Bye-bye. Lambert Drainville, un vulgarisateur hors pair. On est chanceux dans Nangeuse. On a Lambert Drainville. On a Farnell Morisset également qui est avec nous les vendredis. On est vraiment choyés. Mathias, vas-tu être là le 22 octobre?
Je vais essayer d'être là. Je vais être dans une période d'examen. Hey! Fait que ça va dépendre de mes examens, mais j'aimerais beaucoup pouvoir être là.
Moi, j'allais-tu au party où je faisais mes examens?
Ben, Jeff, j'ai un examen cette journée-là durant. Ouais, donc, mon examen finit à 6h30. Ouais. Donc, je viendrai plus tard.
Ah,
mais,
oui.
Mais j'ai un examen le lendemain matin à 9h.
Ouais, ça, c'est plus tard.
C'est ça.
Ouais, c'est plus tard. Je me levais de bonne heure pour étudier. Tu dis, mais un party de même. Hey, j'aurais-tu raté un party de même? Attends,
ben, ça donne envie. Ça donne envie.
Parce que le party, c'est les 10 ans de Boulevard. Le Claire Communication qui lançait une nouvelle radio dans le marché. 100% conçu à Québec, par et pour les gens de Québec, il y a de cela 10 ans. Et on va fêter ça le 22 octobre, 17h, au Malcommode, situé au Promenade Beauport, au 3333 rue du Carrefour. Hey, ça va être un party, ça.
Hey, ça. Regarde, ça va tellement être une belle soirée que j'ai pas le choix. Je vais me trouver. Je vais la libérer.
Ah, pas fort, tu viens de faire un tour.
Je vais libérer de moi une partie de ma journée.
Parce qu'écoute, c'est le lancement de la bière à la Gravelle.
Oh.
C'est une émission spéciale en direct. Et c'est l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro qui souligne 20 ans de carrière. Musique live avec Big Muff en plus et un paquet de surprises. Et là, drôle, là, on a un accès VIP double à faire tirer, donnant accès au cocktail dînatoire ainsi que 2 consommations par personne. Vous nous textez au 418-971-102 et écrivez votre nom complet et le nom de la personne avec qui vous allez y aller. Tu sais quoi, Mathias? Celle-là, je vais être là avec Val.
Ah, OK.
Mais hein, qu'on va être là les deux ensemble.
Pas le choix, pas le choix.
C'est certain pour les 10 ans de Boulevard. Et les 20 ans, honnêtement, il faut le souligner, de Denis et Véro. Incroyable duo radiophonique que vous entendez à chaque jour. Ici, du lundi au vendredi, de 14h à 18h, dans le retour de Gravel. Ils sont accompagnés de l'excellente, mais je dis bien l'excellente, Audrey Pinchot. Alors, textez-nous 418-971-101, votre nom complet, et avec qui vous allez aller aux 20 ans de Denis et Véro aux 10 ans de boulevard au Malcommode, promenade de Beauport. On fait une courte pause et par la suite, on parle avec Gilles Levasseur. Vous l'aviez adoré il y a de ça 2 semaines quand il nous a parlé, le professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. On va revenir sur comment ça, François Legault et la CAQ ont signé des contrats de même avec LGS. Lui, c'est un spécialiste. Il va nous expliquer pourquoi c'est arrivé. Puis sûrement pourquoi c'est une mauvaise décision.
Bon, vite de même, quand tu me dis, tu signes un contrat, puis tu dis à d'autres personnes, ben même si tu ne me l'as pas encore livré, je vais être obligé de te payer. C'est bizarre comme clause, mettons.
Exactement. Donc, on s'en parle après la pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1.